Radio. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
C'est le moment de retrouver Mario Dumont en direct des studios de Cube Radio à Montréal. Mario, on dirait que les chiffres, ça ne veut plus rien dire. Là. Je m'excuse, mais on parle d'un déficit de près de 400 milliards. On annonce ça comme si tout va bien et la reprise économique va venir. On en mettra encore un 100 milliards qu'on trouvera ailleurs.
Ouais. Vous vous souvenez qu'on prévoyait un déficit de 25 milliards, puis moi je trouvais ça énorme pour une année où l'économie devait bien aller. Je trouvais que ça n'avait pas de bon sens de faire un déficit comme celui-là. Ouais, vous avez raison, Pierre. Il y a un certain point où on a l'impression d'ailleurs que ça rend le gouvernement et la société plus dépensière. Parce qu'une fois que tu as un déficit de 381, 400, 410, comme c'est tellement gros que c'est tout pareil.
Ça veut rien dire.
Et bien pourtant, ça veut dire quelque chose, c'est du vrai argent qu'il faudra rembourser un jour. Puis si on en ajoute 5 ou 10 de plus, c'est énorme. Moi, je pense sincèrement que le portrait qu'on nous présente aujourd'hui nous rappelle que il y aurait eu un énorme déficit de toute façon. La pandémie allait frapper l'économie tellement dur qu'il y aurait eu un énorme déficit. Je pense que si on avait eu à Ottawa un gouvernement un peu moins dépensier, là, un peu plus habitué à fermer les robinets quand c'est le temps, à aider, par exemple, la PCU, là, à aider au début quand le monde était mal pris, mais mettre plus de critères après pour pas que ça se prolonge à des gens qui n'en avaient pas un besoin absolument nécessaire. Je pense qu'on aurait pu éviter le 381. On aurait peut-être pu le laisser là, entre 275 et 300, mettons, avoir un 75 à 100 milliards de moins de déficit. Ceci dit, on a quand même un plan qui nous ramène tranquillement vers des déficits plus raisonnables. Moi, ce qui me frappe quand même dans l'exercice, c'est qu'il reste beaucoup d'incertitudes, Pierre. Là. Qui peut vraiment dire de quoi aura l'air l'économie cet hiver? La pandémie, on est encore dedans. On nous parle d'un vaccin qui arriverait un peu au printemps, plus à l'été, même à l'automne prochain. Quelles vont être les ampleurs des vagues? Qu'est-ce que ça va obliger encore comme fermeture?
Ouais, vous parlez du vaccin. Est-ce qu'on a compté combien ça va nous coûter, ça?
Faudra les payer.
Est-ce que c'est dans les chiffres?
Non, c'est pas mentionné spécifiquement comme ça. Est-ce que ça fait partie de la relance? Et c'est pour ça que je dis qu'on est, on est encore sur un fond d'incertitude. Et Mme Freeland le reconnaît elle-même.
Je ne sais pas si vous avez envoyé vos invitations pour le 24 décembre, parce que là, il y en a qui commencent à se demander si on va avoir droit seulement à avoir un rassemblement familial.
Ouais, je serais bien curieux d'être dans la tête de M. Legault. Je pense qu'il y avait un espoir sincère que le nombre de cas reparte à la baisse. Mm-hmm. Et c'est un petit peu un scénario d'horreur pour le gouvernement. Jeudi passé est arrivé une journée, 1400 quelques cas. On s'est demandé, statistiquement, c'est une journée qui a fait un petit dentici dans la courbe, puis elle revient. Puis là, après 5 jours consécutifs, c'est trop. Là. On se rend bien compte qu'on est sur un plateau plus élevé. Le nombre de cas a monté. C'est pas hors contrôle, mais ça monte tout le temps. Ça s'en va dans la mauvaise direction. Idem pour les hospitalisations. C'est pas hors contrôle, mais ça s'en va en montant. Là, on est sur le seuil de dépasser les 700 personnes à l'hôpital. On a beaucoup de décès toujours. Donc, c'est un peu, là, c'est scénario difficile parce que le gouvernement ne voudra pas retirer ce qu'il a promis aux gens. En même temps, moi, je me demandais ce matin, je réfléchissais à haute voix, mais je me disais, au contraire, est-ce que ce serait pas le temps de geler tout ça, là, de mettre tout ça sur la glace puis de dire, regardez, là, on fait un effort, on s'en reparle le 15 décembre, mais arrêtez de faire des plans, arrêtez de faire des invitations. Parce que c'est sûr que si on glisse vers les 1500, 2000 nouveaux cas par jour, là, ça veut dire qu'on approcherait des 1000 hospitalisations. Et on s'en va vers des scénarios où on va être obligé de reculer. En tout cas, c'est pour le gouvernement, là, c'est vraiment, vraiment pas le genre de scénario qu'on espérait.
J'ai l'impression que cette semaine, ou plus tard la semaine prochaine, les choses vont certainement bouger dans les intentions du premier ministre concernant ces fêtes-là. Par ailleurs, le ministre des Finances, lui, a bougé dans le dossier du crime organisé au Casino de Montréal.
Il a bougé, il a nommé un vérificateur externe pour faire un audit là, externe indépendant, donc aller fouiller ce qui se passe à l'Auto-Québec. Mais comprenons-nous, si on avait à mettre une gradation d'enquête, là, l'opposition demandait le NEC plus ultra, la grosse enquête de 3 ans, la commission d'enquête publique, ce que le gouvernement donne, c'est à l'autre bout du spectre. C'est la plus petite, à part une enquête interne qui aurait été ridicule dans ce cas-ci. Vraiment, strictement, un vérificateur externe mandaté. Ça ne veut pas dire que ce vérificateur-là ne peut pas faire du travail. Et dans le cas de la Colombie-Britannique, c'est un processus semblable qui avait finalement conduit à une commission d'enquête publique. Parce que moi, c'est ce qu'il faut penser. Peut-être que le vérificateur va revenir au ministre, ou va revenir, pas juste au ministre, mais à toute la société avec un rapport final ou préliminaire et qui dira, oh là là, là. Moi, j'ai ouvert les armoires, j'ai ouvert les tiroirs et j'ai découvert des choses, là, tu sais. Donc, ça se peut qu'on ait, on soit conduit vers une enquête qui est plus grosse. Mais bon, oui, le ministre, fallait bien se douter qu'avec les réponses, quand même incomplètes qui avaient été données par la direction de l'Auto-Québec la semaine passée, que le ministre est obligé de prendre une mesure un peu plus forte, là, et de réclamer, donc, une vérification indépendante.
Mario, merci. On vous écoute demain, 10h sur LCN.
Alors, Alexandre, c'est Cyberlundi. Est-ce que tu vas magasiner en ligne ce soir?
Oui, ça se peut.
Moi aussi.
Ça se peut. Je vais aller faire. Oui, tu préfères ça au magasin bondé, j'imagine.
Oui, non, mais c'est parce qu'en fait, ils l'ont quand même l'affaire. Là. Aujourd'hui, j'ai vu des courriels rentrer que j'avais pas le temps de regarder, mais juste à les ouvrir. J'ai vu quelques affaires, des cadeaux potentiels.
Ouais, mais d'habitude, ce qu'on peut prendre pour des pourriels, là, comme on les appelle, là, des offres qui rentrent à l'infini, mais là, ça commence quasiment à devenir intéressant. Là. Je pense qu'il y a de plus en plus là, de magasins qui ont mis la main à la pâte là-dessus pour offrir des aubaines sur Internet.
Les experts qui pensent que ça va être un cyber lundi record.
Record, hein? Juste aux États-Unis, on estime que ça va être 13 milliards de dollars de dépensés là, juste aux États-Unis. Évidemment, ça s'explique par rapport à la baisse de l'achalandage là, dans les magasins plus conventionnels, disons-le comme ça, mais c'est certain que ça va... ça peut plaire à plusieurs qui n'ont pas le goût. Moi, c'est mon cas, en tout cas, d'aller dans les magasins bondés à ce moment-là.
Dans une famille de 5 où tout le monde fait son propre magasinage en ligne puis des cadeaux pour les autres, les livraisons à la porte, ça devient...
Ça se bouscule, hein, un peu.
Ça devient loufoque.
Ouais, puis en espérant qu'il n'y en ait pas trop qui se perdent non plus, parce que ça, c'est
non,
un
aléa. Non, mais il y en a 3-4 sur le balcon, puis là, c'est parce que c'est les cadeaux de l'un à l'autre.
faut pas les ouvrir si le nom est pas dessus, disons-le comme ça.
Non, exactement. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30.